Faso IAFA, un programme de Studio IAFA.
Vous ne vous êtes pas trompé, vous écoutez Faso IAFA, l'émission au cœur de nos préoccupations. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. À Bamfoura, la dernière saison des pluies a durement frappé de nombreuses familles, notamment dans le secteur numéro 3, où plusieurs ont vu leurs maisons et leurs biens emportés par les inondations. Comment ces familles sinistrées s'adaptent-elles et quelles stratégies ont-elles mises en place pour rebâtir leur quotidien? Réponse dans notre reportage de la semaine. Selon le spécialiste en santé publique internationale, en saison pluvieuse, les risques sanitaires explosent pour ces déplacés, surtout pour les enfants et les femmes enceintes. Le docteur Karim Kambasere, dans ce Lafikibar, nous livrera ses conseils pratiques pour rester en bonne santé. Face à la pluie, Nafou et Momo nous montrera que la solidarité est une vraie barrière contre les inondations. Même sans tôle ni ciment, on peut protéger son abri si on sait comment s'y prendre. Voici quelques-uns des sujets que nous aborderons dans ce magazine. Merci de nous accompagner tout au long de cette émission. Je suis Aimé Roland Ouedraogo. La saison des pluies passées a été éprouvante pour certains déplacés de Bamfoura, notamment ceux vivant au secteur numéro 3 de la ville. Après avoir acquis des parcelles à leur arrivée dans une zone qui s'est malheureusement révélée inondable, ils ont tout perdu et dû encore recommencer à zéro, un calvaire qu'ils racontent dans ce reportage de Nelly Tapsova.
Debout au milieu de sa concession, le vieux Mahamadou Diallo nous montre les dégâts causés par les eaux au cours de la saison pluvieuse passée.
Quand la pluie a commencé, l'eau s'est infiltrée dans les maisons et les a fait tomber. Là où il y a des bâches, c'était des maisonnettes. Tout a été détruit. Deux maisons sont tombées ici, une troisième là. Cette maison a été endommagée, mais ce n'est pas tombé. L'eau a emporté nos papiers, des actes de naissance. Certains de mes enfants sont élèves. Leurs cahiers ont été emportés. Nos provisions ont également été emportées, du maïs, du riz. Ce que nous avons pu sauver était mouillé. Nous l'avons étalé pendant des jours afin de le sécher.
Installé à Bamfoura avec sa famille depuis bientôt 2 ans, Mahamadou Diallo ignorait que la parcelle de terre située au secteur 3 de la ville de Bamfoura, acquise avec ses économies, était en fait située dans une zone inondable.
Nous ne connaissons pas cette zone. Quand nous sommes arrivés, on nous a proposé la parcelle et nous avons accepté. Je venais d'arriver, ma famille est nombreuse, difficile d'aller en location, raison pour laquelle je n'ai pas hésité quand on me l'a proposé. Je n'ai pas acheté la parcelle auprès de la mairie. Je n'ai aucun document. Si tu es dans une situation difficile et que quelqu'un te propose de t'aider, tu lui fais confiance. C'est ce qui m'a conduit dans ce problème.
À quelques mètres de là, Amadou Diko, lui, a tout perdu dans ces inondations. L'eau a complètement détruit la maisonnette qui lui servait d'habitation. Le jeune conducteur de tricycle est aujourd'hui installé dans une tente avec sa famille, une situation qu'il espère temporaire.
On a trouvé refuge ici et les premières pluies sont tombées. Quand il pleuvait, l'eau de pluie atteignait nos genoux. Puis, un jour, il y a eu une grande pluie. Il y avait tellement d'eau que ça atteignait nos poitrines. Nos maisons sont tombées, on a dû aller louer des maisons et on a prévenu l'action sociale. Une semaine après, la Croix-Rouge est venue nous enregistrer avant de venir fixer des tentes pour nous. Et depuis, c'est sous cette tente que nous nous sommes abrités jusqu'à la fin des pluies. Aujourd'hui, encore, nous y sommes.
En attendant d'avoir de meilleures conditions, Mahamadou et son voisin Amadou essaient de renforcer au maximum leurs habitations en vue de la prochaine saison pluvieuse.
La fille qui bat.
À la suite de ce reportage, nous ouvrons maintenant une page d'analyse avec un spécialiste en santé publique internationale pour mieux cerner les risques et les solutions. Dr Karim Kambasere, bonjour et merci de nous accorder ce moment.
Bonjour à vous.
Quels sont les principaux risques sanitaires auxquels les personnes déplacées sont exposées en vivant dans des abris improvisés, surtout en saison pluvieuse?
Et il faut dire que les personnes déplacées internes généralement sont logées dans des abris conçus par soit le gouvernement, soit les partenaires techniques qui accompagnent le gouvernement. Mais il arrive souvent que pour les questions données, certaines personnes puissent être logées dans des abris inconfortables, improvisés. Et donc les risques au niveau sanitaire dépendent beaucoup plus de la zone de positionnement de l'abri. Donc ça entraîne beaucoup plus de maladies liées à la transmission de vecteurs présents dans l'eau. C'est-à-dire que ce sont des maladies qui sont transmises par l'eau, surtout avec les inondations, les eaux stagnantes et tout ça, qui peuvent dégager des bactéries. Mais il y a aussi la vulnérabilité accrue au paludisme et à la dengue. Comme on le sait déjà, les moustiques vont pulluler beaucoup plus dans ces eaux stagnantes et tout ça. Et il y a aussi des maladies liées à l'humidité. C'est-à-dire qu'avec l'humidité, l'inconfort du logement, la promiscuité que les uns et les autres ont, et ça peut entraîner des infections respiratoires, par exemple. Les maladies liées à la peau, ça, ce sont des éléments. Et puis, peut-être pour terminer, des maladies qui peuvent découler, par exemple, des serpents, des morsures, des blessures et tout ça, en fonction de la zone, quoi.
Pensez-vous que les enfants ou les femmes enceintes soient davantage exposées à ces dangers?
Oui, il faut le dire clairement, les enfants et les femmes enceintes sont beaucoup plus à risque dans ces zones-là, parce qu'il faut dire que les enfants sont plus sensibles à la déshydratation, par exemple, la diarrhée, la malnutrition, et les femmes enceintes, avec les différentes maladies qui peuvent en découler, peuvent être sujettes, par exemple, aux risques liés à la grossesse, notamment des accouchements prématurés, des infections et puis bon, les difficultés de prise en charge médicale.
Vous, en tant que spécialiste en santé publique internationale, quels symptômes devraient alerter immédiatement les familles dans ces milieux?
Je pense que tous les symptômes doivent être pris en compte. Mais beaucoup plus, vous allez voir des gens qui vont avoir une fièvre persistante, une diarrhée avec du sang sanglant, puis bon, ça peut être abondante ou bien avec des vomissements. Quelqu'un qui présente par exemple des difficultés respiratoires, une perte de connaissance et tout ça. Donc ce sont des éléments qui sont palpables, mais il faut dire que toutes les manifestations possibles doivent faire l'objet d'une consultation.
Ok, et quelles sont les meilleures astuces simples pour limiter les dégâts liés aux pluies dans les abris de fortune?
De façon pratique, il est conseillé, comme je disais, de s'installer dans une zone qui n'est pas inondable, dans une zone où, même quand il pleut, l'eau n'arrive pas à rentrer dans les maisons. Et si vous êtes dans ces conditions, il faut faire en sorte de surélever, par exemple, le sol de l'abri pour que l'eau ne rentre pas dans les maisons et faire en sorte que l'eau qui descend de la pluie ne puisse pas pénétrer dans la maison, en surélevant par exemple le toit. Et si possible, si vous avez la possibilité d'avoir des tranchées ou je ne sais pas quoi, permet de canaliser l'eau en dehors du site de l'abri, ça serait bien. Et puis solidifier vos abris à l'abri du vent et de la pluie pour que ça ne puisse pas les emporter.
Pour terminer, vous en tant que spécialiste en santé, un message à l'endroit de ces populations?
En tout cas, pour ce qui est de la santé, nous conseillons à ces séances-là d'utiliser de l'eau potable tant que c'est possible. L'eau qui est disponible, il faut s'assurer que l'eau est potable ou en tout cas mettre les moyens, même de façon simple, bouillir l'eau et tout ça, pour que ça soit beaucoup plus potable. Dormir sous moustiquaire, en tout cas la nuit, il faut observer les mesures hygiéniques. Ne pas garder l'eau stagnante à côté et puis faire en sorte de ne pas tomber malade tant que c'est possible. Voilà.
Merci beaucoup, docteur, pour ce message et aussi ces éclairages.
Je vous remercie.
Momo et Nafou.
Quand la pluie tombe, certains abris se transforment en cauchemar et pourtant, avec peu de moyens et beaucoup d'astuces, on peut limiter les dégâts. Dans une discussion pleine d'humour et de bon sens, Nafou et Momo nous partagent leurs inquiétudes et surtout leurs solutions. On les écoute.
Bonjour Nafou, comment vas-tu?
Je vais bien Momo, et toi?
Écoute, je n'arrive pas à comprendre comment toi. Tu fais pour être calme avec ce temps de pluie-là. Moi, je n'ai pas dormi de la nuit car j'avais peur des dégâts que la pluie aurait pu faire à mon abri.
Momo, tu as raison. Je comprends ton angoisse, mais laisse-moi te dire qu'on doit se préparer.
Préparer quoi?
Écoute, il y a des choses simples qu'on peut faire pour protéger nos abris. Par exemple, si tu es dans une tente, il faut améliorer l'étanchéité en utilisant des bâches pour couvrir les abris et éviter les infiltrations d'eau. Si le toit est en tôle, il faut le vérifier pour éventuellement coller les trous à temps avant les pluies, Momo.
Bâche, toi-même tu sais que ça ne peut pas tenir contre le vent?
Si, Momo. On fixe bien les bâches, ça peut vraiment aider. Et on peut aussi vérifier les murs. Il faut les renforcer même avec du banco mélangé à la bouse de vache. Dans certains cas, des planches de bois ou des tôles peuvent faire l'affaire si c'est disponible, Momo.
D'accord. Mais si malgré tout ça, l'eau rentre quand même, on fait quoi?
Voilà pourquoi moi je surélève mes affaires, Moumou. Je mets les objets de valeur sur des supports en haut pour qu'ils ne soient pas touchés par l'eau. Et quelque chose de très important, Moumou, c'est de dégager les drains pour une bonne évacuation des eaux de pluie.
Dégager les drains, ça je peux faire. Mais ça va vraiment aider?
Oui, ça aide à éviter les inondations, Moumou. Et on doit aussi se rassembler en communauté. Si chacun fait un peu d'effort, on peut tous protéger nos abris, Moumou.
Tu as peut-être raison, hein?
Moumou, chaque effort compte. Même sans tôle, on peut faire face aux difficultés pendant la pluie ensemble.
Aïe, Madame Positivité, comment ça?
On peut créer des points de rassemblement, partager les informations sur les alertes météorologiques et les bonnes pratiques pour la sécurité avant et pendant les tempêtes, Moumou.
D'accord, Nafou. Mais il faudrait surtout qu'on fasse très attention aux enfants en cette période de pluie.
Tu as raison, Moumou. Je dirais pour terminer que le mieux, c'est de bien choisir l'emplacement de sa tente ou sa maison, Moumou.
Comment ça, Nafou?
Je veux dire qu'il faut éviter les zones inondables en installant les abris sur des terrains surélevés pour réduire le risque d'inondation. Il faut aussi choisir des emplacements qui ne sont pas exposés au vent fort.
Vraiment, merci pour tous tes conseils. Je vais dormir tranquille désormais en suivant ces conseils-là.
C'est ensemble qu'on va s'en sortir, mon.
Que Dieu t'entende.
Kibar utile.
Dans sa mission de porter secours aux personnes en détresse, la Croix-Rouge burkinabé apporte une assistance en abri aux déplacés internes et aux victimes de catastrophes naturelles. Mais comment cette assistance est-elle organisée sur le terrain? Benoît Zongo, chef de projet abri à la Croix-Rouge burkinabé, répond au micro de Micheline Guigma.
Bonsoir à Monsieur Zongo.
Oui, bonsoir.
Dites-nous quel type d'appui la Croix-Rouge apporte-t-elle aux personnes déplacées et vulnérables en matière d'abri?
Il faut dire que l'appui en matière d'abri de la Croix-Rouge se décline à travers la distribution de kits essentiels, la construction d'abris d'urgence ou maisons durables, la réhabilitation des maisons et un accompagnement technique et communautaire qui favorise la dignité, la résilience et la coordination globale de l'intervention.
Et comment se déroule l'assistance en abri? Les personnes concernées peuvent-elles vous solliciter directement ou y a-t-il une procédure spécifique à suivre?
L'assistance en abri est structurée autour de plusieurs phases. Donc, dans un premier temps, il y a l'évaluation des besoins, la sélection ou l'identification des bénéficiaires, la distribution des kits et également le soutien technique à travers le montant des abris. Aussi, cette assistance ne peut pas être sollicitée individuellement par une personne déplacée isolée. Le procédé repose sur une coordination entre l'autorité locale, les services techniques en charge de l'action humanitaire et la Croix-Rouge pour assurer une réponse juste, efficace et conforme aux besoins réels.
En cette période de pluie où les besoins en abri sont encore plus urgents, des actions de dotation sont-elles prévues par la Croix-Rouge?
Il faut dire que les actions de la Croix-Rouge sont mises en œuvre à travers des projets et programmes. Donc pour ce faire, s'il arrive qu'il y ait par exemple une inondation d'une grande ampleur dans une localité donnée, la Croix-Rouge burkinabé à travers ses partenaires peut développer un projet d'urgence dans le but d'apporter une réponse. Également, la Croix-Rouge burkinabé à travers ses projets et programmes met en place des kits de contingence pour la réponse rapide en cas de catastrophe naturelle. Donc faut entendre parler par là les inondations, les vents violents. Il arrive souvent qu'en cas de catastrophe que la Croix-Rouge ne dispose pas de ressources pour la réponse, mais elle soumet des demandes de financement auprès de ses partenaires dans le but d'apporter une réponse.
Pour terminer, Monsieur Zongo, quelles sont les principales précautions ou mesures à adopter en saison pluvieuse pour se prémunir contre les inondations?
Alors, il faut adopter un comportement responsable, donc à savoir curer les caniveaux, éviter les occupations ou les réalisations dans les zones à risque d'inondation.
Bonne arrivée.
La bonne arrivée de cette semaine nous vient de Gayeri, dans la Komondiari. La famille Tendanon a accueilli plusieurs personnes. Elles disent entretenir un bon vivre ensemble. Notre envoyé spécial, Oumarou Lompo, a échangé avec elles. Suivons.
Bonjour. Ce matin, nous sommes à Gaïri, donc plus précisément au secteur 4. Donc, je suis dans la famille Tendano. Donc, je vais m'entretenir avec M. Tendano et ses étrangers. M. Tendano, bonjour.
Bonjour, monsieur. Comment vous allez?
Ça va.
Ok, soyez la bienvenue.
Merci. Donc, comme je le disais, je suis là pour m'entretenir avec vous et vos étrangers.
Il n'y a pas de souci.
Vous pouvez me dire, je vois que vous avez beaucoup d'étrangers.
Oui.
Ce sont vos parents ou bien c'est comment?
D'autres sont mes parents et d'autres aussi viennent d'ailleurs. Okay. Voilà, vu la situation sécuritaire, voilà, délétère dans notre pays, voilà, ils sont contraints à nous rejoindre voilà, dans la ville.
Et vous pouvez me dire, ils sont là exactement, il y a combien d'années?
Il y a à peu près 3 ans de cela voilà, que nous vivons ensemble chez moi.
Donc vous vivez ensemble, vous pouvez m'expliquer un peu votre mode de vie.
Il y a l'harmonie entre nous. On n'a pas de problème avec eux. Voilà, ils sont venus. On les a reçus comme voilà, nos frères, nos parents, nos connaissants. Et nous vivons ensemble. Nous faisons ce que nous pouvons faire pour eux. Et eux aussi, ils nous acceptent comme étrangers. Donc nous vivons, il y a l'harmonie, il y a aussi la cohésion sociale. Donc nous disons merci à Dieu, même si on se débrouille.
Voilà. Merci. Donc je passe, c'est l'étranger, il y a M. Zoré. M. Zoré, bonjour.
Bonjour.
Votre matinée.
Voilà, bienvenue.
Merci.
Ça va bien.
Votre tuteur vient de dire que vous êtes là il y a longtemps.
Oui, c'est vrai.
Ok. Vous pouvez me dire, c'est-à-dire vous vivez comment? Votre mode de vie, quoi?
En tout cas, ce que si nous vivons ensemble, nous mangeons ensemble, nos enfants s'amusent ensemble, nous sommes ensemble. Jour et nuit, nous sommes ensemble, donc nous sommes contents de eux. Bon, nous, on peut dire qu'on voulait les remercier seulement comme ils ont nous appris, comme leurs parents. Nous allons les remercier beaucoup.
Donc, merci. Donc, je passe à Madame Zoré. Madame Zoré, bonjour.
Bonjour, monsieur. Comment vous allez?
Ça va.
Et vos activités?
Ça va. Voilà. Donc, votre tuteur a dit que vous êtes là il y a longtemps. Vous pouvez m'expliquer un peu comment vous vivez?
En tout cas, nous vivons ensemble. Nous mangeons ensemble, nous enfants jouent ensemble, tout comme on est heureuse.
Vous êtes heureuse?
Oui.
Ok. Et vous êtes heureuse? Je vois, bon, vous êtes dans les maisons. Les maisons là, vous payez ou bien c'est comment?
Non, non, on n'est pas payé.
Vous ne payez pas?
Non, non, on ne paye pas.
Vous avez quelque chose à ajouter?
On se remercie seulement. On les remercie beaucoup.
Ok.
On est très contents.
Ok. Donc, je passe, c'est Madame Catétrice. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Votre matinée.
Oui, je vais bien. Et chez vous?
Ça va. Mmh. Voilà, donc je suis là pour m'entretenir avec vous et vos étrangers. Mmh. Vous pouvez me dire un peu, c'est-à-dire votre mode de vie.
Et mon mode de vie est qu'on est heureux.
Oui.
D'avoir les accueillis dans notre famille.
Ouais, ouais,
voilà.
Ouais.
Comme ce sont des étrangers,
ouais.
Ils ont quitté ces yeux avec la situation. Donc quand ils sont venus, on les a accueillis, on vit ensemble, on est content d'eux.
Ouais.
Voilà.
Okay.
C'est ce que j'ai
vous avez quelque chose à dire?
Oui, vous avez quelque chose à dire. Oui. Parce que nous, nos enfants là, vivent ensemble. Nous-mêmes, on mange ensemble. Il y a des maisons aussi. Ah, on se débrouille pour eux. Ils vont loger. Voilà. Et puis, ce qu'on a ajouté, on prie Dieu que la paix revienne aux façons.
Okay.
Et puis, eux aussi, ils puissent se rejoindre chez eux.
Les localités d'origine, quoi?
Oui, oui. Okay. Voilà.
Donc, on va vous remercier.
D'accord.
Bonne suite à vous.
Merci beaucoup et bon retour à vous.
Merci.
Mesdames, Messieurs, après l'émotion, place à l'inspiration et à la vibration. Notre invité, c'est un monument vivant de la scène, conteur, musicien, comédien et magicien de la parole. Accueillons ensemble au Pamin General Otaotao, l'artiste qui fait danser les mots et chanter les cœurs. Merci, bonne arrivée.
Merci.
Au Pamin Votre univers est un mélange de contes, d'humour et de musique. Quelle émotion guide le plus votre création?
Dans toutes ces dimensions que j'ai, je veux dire que la dimension se mue et se fonde ensemble. Il n'y a pas une dimension, une discipline qui est sur l'autre.
Ok.
Voilà, je suis conteur, je suis musicien, je suis comédien. Donc, c'est les trois forces qui me guident.
Vous avez arpenté la scène d'Afrique et d'Europe. Quelle anecdote reste gravée dans votre mémoire du griot moderne?
Alors, l'anecdote qui reste dans ma mémoire, c'est d'abord en 2009, quand j'étais allé représenter le Burkina Faso Panaf à Alger. J'ai pas réussi à jouer, mais j'ai organisé un spectacle spécial dans l'hôtel où j'étais. Et je me rappelle, il y a un Camerounais qui devait voyager, il a raté son vol. Mais après, il m'a dit, mais écoute, je suis très content d'avoir raté mon vol parce que j'allais rater ce spectacle. Mais ça m'a fait chaud au cœur.
Okay. Vous jonglez avec le français, le djoula et le saint, qui est votre langue maternelle.
Mm-hmm.
Un coucou spécial aux Samou, nos esclaves.
Ouais.
Voilà. Que représente pour vous cette diversité linguistique dans l'art?
Ah ben, c'est déjà une force. Ça veut dire aussi que j'ai traversé beaucoup d'univers. Mm-hmm. Je suis né saint et j'ai côtoyé les Mouara en Côte d'Ivoire. J'ai même vécu avec le baoulé. Alors, le djoula, c'était notre langue de jeu avec les petits djoula en Côte d'Ivoire. Donc, tout cet univers m'a vraiment nourri et voilà, c'est ce qui me fait.
Entre le micro, la scène et la plume,
ouais,
où vous sentez-vous le plus libre?
Ah ben, je me sens plus libre dans l'art de la parole. Le micro, c'est mon frère, on est ensemble.
Un petit mot sur votre concept original, Concerto Conte.
Alors, Concerto Conte, c'est un métissage. Je peux dire, c'est un jumelage de toute ma traversée artistique. Parce que j'ai commencé en tant que comédien. Après, j'ai été conteur face au micro. Après, je suis devenu conteur sur scène. Et je suis musicien aujourd'hui. Donc, c'est la fusion de ces trois disciplines-là qui fait le Concerto Conte.
Un mot avant de se quitter, d'où est venue cette idée folle et brillante?
L'idée est venue seule, c'est pas une idée qui a été cherchée, c'est la synthèse d'un parcours, c'est tout simplement. Chaque discipline a eu son temps et ça a été travaillé mûrement.
Okay.
Ce n'est pas une confusion, c'est pas une course de vitesse.
Un message à l'endroit de nos auditeurs et particulièrement les déplacés internes qui parmi eux, vos fans, qui vous écoutent actuellement.
Alors je dirais comme ça à tous les auditeurs, les
Yafa.
Fatigue.
Ok, il y a fatigue, oui. Merci pour le mot.
Comme ça que vraiment je suis très content d'être avec vous parce que c'est la voix du peuple qui prime. Et aux déplacés, je dirais ceci, qu'ils ne se sentent jamais seuls parce qu'on est seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, on est ensemble.
Merci pour le message. Merci, Opamine, pour cette belle traversée de votre univers.
Merci.
Il est temps de vous écouter. Top, c'est parti pour Musique Live.
Sankabadono samana dugu gbere otle mapo Bala oburu de fiera korono unikata blatle bena Bala u de chera u Angwani de chera u Munandunia y chera u Noble Jean, on a toujours dit que la parole appartient à moitié à celui qui l'a dit et l'autre moitié à celui qui l'écoute. Alors, mon ancien Gwentia Lombano Tapaye disait que celui qui veut marier la fille d'un marguillet, il doit apprendre à grimper la mur. Autrefois, dans le temps très reculé, à la naissance de l'humanité, les hommes vivaient au village, les animaux en brousse. Et un jour, une calamité s'abat sur la forêt. Ah, c'était une grande. Ah, le feu était immense. La détresse était immense. Les animaux tout confondus, lions, éléphants, buffles, panthères, tous fuyaient. Personne ne s'est arrêté pour savoir le fondement de ce. Ah, c'était un grand malheur. Et pendant que tous fuyaient, il y avait un petit oiseau, le colibri. Le colibri, il faisait des va-et-vient entre la rivière et l'incendie. Il partait dans la rivière, il prenait un peu d'eau dans son bec, venait laisser tomber sur le flanc. Et la hyène qui était restée derrière tous parce qu'il voulait ramasser les cadavres d'animaux qui ont été brûlés par le feu, il voit le colibri dans son va-et-vient et dit, mais attends, toi là, quelle sottise. Si l'éléphant fuit, si le lion fuit, si la panthère fuit, c'est pas toi, tes petits oiseaux là avec ton petit bec là, qu'est-ce que tu peux faire à ces flammes là? Alors là, le colibri dit à la hyène, il dit, chacun fait ce qu'il peut. Chacun met du sien. Moi, je fais ma part. Si chacun de nous faisait sa part, sait-on jamais, peut-être qu'on viendra à bout de ces flammes. Alors, la hyène rapidement rattrape les autres animaux et les fait comprendre la sagesse du colibri. Et tous ensemble, main dans la main, ils font les va-et-vient entre la rivière et les flammes et parviennent à éteindre le feu. Et c'est pour cela que les anciens ont coutume de dire que seul on va vite, mais ensemble on ira plus loin. Que c'est main dans la main qu'on arrive à fonder un monde meilleur. Donc aujourd'hui, la nation burkinabé, attrapons-nous les mains et avançons d'un pas, d'un regard, d'une vision pour un Burkina prospère.
Ainsi s'achève cette édition de Faso Yafa. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Restez solidaires, vigilants et porteurs de paix au sein de nos communautés. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Faso Yafa. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.